33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. Samedi prochain, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour renouveler leurs 255 députés. Ce scrutin intervient 4 mois après une présidentielle contestée. L'opposition avait boiccoté le scrutin du 31 octobre 2020 et appelé à la désobéissance civile. Les violences électorales avaient fait 87 morts et quelques 500 blessés. Cette fois, le climat est à l'apaisement. L'opposition a décidé de participer à ces législatives dans l'espoir de changer la couleur d'une assemblée dominée actuellement par le parti au pouvoir, le RHDP. Et pour la première fois depuis 10 ans, la branche du FPI Pro-Gbagbo a fait alliance avec le plus grand parti d'opposition, le PDCI, d'un autre ancien président, Henri Conan Bédier. Leur candidat se présente sous la bannière de la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Comment voyez-vous ces législatives inclusives? Le jeu est-il ouvert? Que pensez-vous de cette nouvelle coalition EDS? Ces élections marqueront-elles la fin des crises politiques en Côte d'Ivoire? L'ombre de Laurent Gbagbo, dont les partisans attendent le retour en mars, va-t-elle planer sur le scrutin? On lance le débat. Abou, bonjour.
Oui, bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Grand Bassam. Alors, que pensez-vous de ces élections inclusives? L'opposition a décidé de ne plus boycotter les urnes. Est-ce que la page des divisions est en train de se tourner, selon vous?
Oui, Chantal. Franchement, je suis un Ivoirien très heureux de voir que le climat politique est sereine, parce que depuis plusieurs années, comme vous l'avez présenté, nous avons eu beaucoup de violences. Et à chaque fois qu'il y a des élections qui sont programmées, en tout cas, nous, on avait peur. On avait peur du lendemain. Aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes sereins, nous sommes contents. Moi, je suis à Grand Bassam. Il y a toutes les tendances politiques confondues. Les élections, les campagnes battent leur plein. Moi, je vois des candidatures de l'opposition où ils sont, ils dansent, ils chantent dans les caravanes. Vraiment, c'est l'expression de la démocratie, enfin, en Côte d'Ivoire. Alors, pour les coalitions, effectivement, c'est légitime. C'est la prouve également que le président en place n'est pas un dictateur. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller aux élections, vous avez la route, vous pourrez aller aux élections. Mais il s'agit pour le gouvernement, enfin, pour l'État, je vais dire pour le président en place, de conforter sa majorité présidentielle afin qu'il puisse poursuivre les réformes qu'il a entreprises. Alors là, je pense qu'il a entrepris de grosses réformes et donc il s'agit pour nous de lui de conforter vraiment cette avance au niveau de l'Assemblée nationale.
Abou,
voilà ce que je pense de tout ça.
Abou, je vais vous lire un message qu'on a reçu sur WhatsApp. Blaise de Boisflay nous écrit « Le fait que l'opposition prenne une part active à ces élections législatives est une très bonne idée. Cela évitera que l'Assemblée nationale soit monocorde et monocolore. » Vous aussi, vous êtes d'accord? Vous pensez que une Assemblée ne doit pas être monocolore? Ce n'est pas bon signe pour la démocratie?
Non, en fait, pour la démocratie, peut-être, mais monocolore, quoi. C'est-à-dire un président qui vient avec son programme de gouvernement doit pouvoir appliquer ses réformes. Alors qu'en Afrique, on a tendance à mal comprendre l'opposition, parce que l'opposition n'exerce pas bien son rôle. L'opposition vient seulement pour boycotter, pour rejeter tout ce que le pouvoir va présenter. Voilà le problème. Donc, il s'agit pour le pouvoir en place de conforter, sinon si on ne peut pas et que les députés jouent pleinement leur rôle, c'est-à-dire de recadrer le pouvoir. Et là, vraiment, je suis d'accord avec cet auditeur. Mais en Afrique, l'opposition vient pour casser le pouvoir. Alors, donc, le pouvoir a intérêt à avoir une majorité confortable pour pouvoir appliquer ces réformes.
Merci beaucoup, Abou, de nous avoir appelés. Bonne journée à Grand Bassam. On part pour Abidjan retrouver Gilda. Bonjour.
Bonjour, Chantal. Bonjour.
Alors, que pensez-vous de la stratégie de l'opposition pour ces législatives? Est-ce qu'elle a eu raison, d'abord, d'abandonner la politique de la chaise vide?
Bon, l'opposition a eu raison d'abandonner la politique de la chaise vide, mais il faut dire aussi qu'elle n'avait pas vraiment le choix, parce que après 10 ans d'absence de l'opposition significative des actions politiques et de l'Assemblée, ça allait être très difficile pour l'opposition de continuer de rester muette. Voilà. Et il faut dire aussi que le président Ouattara ne leur a pas vraiment donné le choix. Quant aux sorties de cette présidentielle difficile et pénible que l'opposition a connue, quelques mois après, 3 à 4 mois après, il lance les législatives. Cela oblige l'opposition à revoir ses tactiques, à revoir ses plans et à trouver des nouvelles donnes pour se réorganiser.
Alors voilà, justement, est-ce que ces alliances entre partis ou fractions de partis sont une bonne chose et est-ce qu'elles sont approuvées par la base? Qu'est-ce que votre entourage en pense par exemple?
Moi je vais vous dire, honnêtement, les populations se sentent trahies. Les populations se sentent trahies parce qu'on ne peut pas sortir d'une élection avec 85 morts, plus de 500 ou 600 blessés, pour avoir contesté les présidentielles, pour avoir défendu la Constitution, refuser un troisième mandat. Et au sortir de cette élection, où aucun bilan n'est fait, aucune assise n'a été faite pour appeler à l'union et à apaiser les tensions, on lance des législatives. C'est une stratégie du pouvoir pour ne pas donner le temps à l'opposition de se réorganiser. Et cela s'est démontré parce que ça a divisé l'opposition qui s'est réaménagée en différentes alliances. Et c'est dangereux. Je vais vous dire, je ne croyais pas du tout à ces législatives, je n'y pensais même pas. Parce qu'il fallait penser les plaies des gens qui ont perdu leurs enfants, de ceux qui ont, des victimes qui sont encore certains dans des hôpitaux, des gens qui ont encore des séquelles. Je n'y croyais pas, jusqu'à ce que j'ai contact avec un acteur majeur de la politique, du nom de Issiaka Sangaré, qui trouve qu'il faut oser le changement. Et oser le changement comment? Pour ce personnage, il faut avancer. Il faut avancer, laisser les souffrances derrière et se projeter sur l'avenir. C'est bien beau de le dire, mais il faut pouvoir implémenter ça sur le terrain. Voilà. Si pour moi, un citoyen lambda, je n'ai pas eu contact avec un tel personnage, je reste mes rancœurs et je suis en colère. Parce que je juge que l'opposition, vous avez poussé les enfants, des gens à être dans la rue pour défendre la Constitution. Vous n'avez pas eu gain de cause, vous n'avez pas eu les modifications, des changements que vous espérez, et vous allez aux législatives. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, le candidat ou bien les acteurs politiques candidats aux législatives ont leur raison, mais il faut quand même pouvoir tendre l'oreille pour écouter les idées nouvelles qui parlent de oser le changement et qui parlent d'avancer.
Voilà. Merci de Gilda de nous avoir appelé d'Abidjan. On reste à Abidjan avec Saïd. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat un peu amer que fait Gilda?
Je dis que le constat pour moi est mitigé, hein, et je m'explique. D'abord, je dis que de voir l'opposition aujourd'hui s'engager pour les élections législatives, c'est une satisfaction personnelle. Cela démontre la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut permettre, n'est-ce pas, à tous les partis de s'exprimer et de présenter des projets aux populations. Et ensuite, ne pas avoir forcément un parlement monocolore. Donc aujourd'hui, on a vu qu'il y aura dans notre Assemblée nationale plusieurs représentants issus, n'est-ce pas, de différents bords politiques, afin que la démocratie soit beaucoup plus sucrée, beaucoup plus vitale. Maintenant, à savoir si l'opposition est partie, en tout cas, de bon pied pour, contrarier les pouvoirs, je pense que non. Parce que l'opposition s'en va beaucoup plus divisée que lors de la présidentielle. Vous savez, aujourd'hui, en dépit des coalitions qui sont mises en place pour, justement, aller contrer les candidats du pouvoir, et il est plus qu'évident et il est obligé de reconnaître, nous sommes obligés de reconnaître que l'opposition aujourd'hui est divisée. Et vous voyez, aujourd'hui, le FPI va en disperser. Il y a une branche qu'on appelle Laurent Gbagbo Pur Sang, et il y a une autre branche qui est dirigée par le président Afin Guessant. Et donc, déjà, le FPI est divisé. Or, pendant la présidentielle, on avait vu une petite volonté de réunification du FPI, n'est-ce pas, à l'aune des moudres de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, cela, c'est l'histoire ancienne. On voit également le GPS de Monsieur Guillaume Soro qui ne va même pas aux élections alors qu'il était solidaire de l'opposition justement pendant la présidentielle. Alors je pense que l'opposition fait de la figuration, mais le pouvoir est parti pour remporter la majorité des sièges et je crois que cela va beaucoup plus aider le président à mettre en œuvre son projet de gouvernement.
Merci Saïd de votre appel. Bonne journée à Abidjan. Je vais vous lire quelques messages qu'on a reçus sur Facebook. Lassana nous écrit « Nous n'attendons que la paix et la stabilité politique. Sachez que c'est un match perdu d'avance pour l'opposition ivoirienne. Elle n'a plus de crédibilité, elle n'a plus de force. » Serge Béda, au contraire, nous écrit « Ces législatives, heureusement inclusives, sont le symbole d'une Côte d'Ivoire qui renoue avec la paix sociale. Nous attendons de ces élections une aubaine pour le retour du président Laurent Gbagbo par la victoire du tandem PDCI-FPI originel. On part maintenant pour San Pedro retrouver Vakaba. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors Vakaba, est-ce que l'opposition est en capacité de mobiliser ses troupes pour le scrutin de samedi prochain? Notre auditeur précédent, hein, Saïd à Abidjan, remarquait à quel point elle était divisée cette opposition.
Oui, madame, moi, pour moi, il n'y a pas d'espoir pour que l'opposition puisse remporter ces élections. L'opposition ivoirienne ne pourra jamais remporter ces élections. Parce que, au sorti de la crise, après la crise électorale, présidentielle, bon, il n'y a pas eu d'assises pour essayer de voir ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché. Et puis, on vient subitement nous dire que d'aller aux élections, c'est tout à fait normal. Mais quand on lance un mot d'ordre, vous dites qu'aller aux élections et qu'on doit aller aux élections punis, et après, on a l'impression qu'on va en disperser. Il faut que les tenants du pouvoir descendent dans l'arène pour venir galvaniser les militants. Parce que ça fait plus de 10 ans que nous sommes restés sur la touche et 10 ans, ça laisse des traces. La configuration géopolitique de 2010 et celle de 2020, c'est complètement différent. Donc, il ne suffit pas de donner un mot d'ordre de l'appel de BD qui appelle à voter les candidats de l'opposition. Et puis s'asseoir dans son coin tranquillement, il faut que les points de l'opposition descendent sur le terrain pour venir contrer le RHDP, parce que 10 ans, c'est trop.
Vous voulez dire que l'opposition a eu tort de pratiquer cette politique de la chaise vide, d'appeler au boycott pendant toutes ces années?
Oui, à mon humble avis. Et ça a laissé des traces.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez autour de vous? Est-ce que les gens s'intéressent à ces élections ou pas?
Voilà. Aujourd'hui, les gens s'intéressent à ces élections, mais d'une autre manière, parce que le volet politique, même le rôle du député, excusez-moi du terme, il y a beaucoup d'analphabètes encore chez nous, le rôle du député, les gens pensent que le député, c'est le développement. Et c'est ce que les candidats du RHDP et de leur aile indépendant, ceux qui sont un peu indépendants, RHDP, qui sont sur le bord, ils cherchent sur ça pour battre campagne. Le développement, quelques feuilles de tôle par-ci, du ciment par-là, et ils embobinent la population. Vous voyez déjà. Donc, si les gens ne viennent pas, les cadres du FPI, du PDC ne descendent pas pour venir expliquer aux populations réellement ce que c'est que le rôle du député, nous sommes partis pour... Donc, c'est pas la peine. On accompagne.
Voilà, vous voulez des campagnes plus pédagogiques, hein, plus à l'écoute des électeurs sur le terrain?
Les électeurs sur le terrain, il faut que, comme des gens du FPI, comme je cite par exemple M. Kone Boubacar, qui est l'un des représentants du FPI dans le Bassa-Samba, il faut qu'ils descendent dans l'arène politique, il faut qu'ils descendent voir les populations, il faut que tous les gars du FPI descendent pour venir éclaircir ce que c'est que le rôle du député au juste. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que le député, c'est lui qui va apporter le développement, parce que bon, c'est ça que sauf le RHDP, parce qu'ils ont passé 2 coups de pinceau par-ci sur des édifices publics, ils ont donné du ciment à des gens, donc voilà leur fonds de campagne.
Merci.
Donc, on parle comme ça, on casse les dents, madame.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vakaba. Encore quelques messages WhatsApp. Ibrahima, l'alliance PDCI et FPI n'aura aucun effet dans ces législatives. Seul compte la valeur intrinsèque des partis et des candidats. Ici, seuls les partis et les candidats proches des populations seront gagnants. Les alliances politiques ont peu d'influence. Et puis, Enoch nous écrit, ces législatives montreront que l'alliance historique entre le PDCI et la coalition des partisans de Laurent Gbagbo représente la première force politique du pays. Contrairement à ce que le RHDP veut nous faire croire. On retourne au standard où nous attend Hortense. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en ligne d'Abidjan. Alors vous étiez plutôt RHDP et aujourd'hui PDCI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre trajectoire?
Ah non, je rectifie. Je ne suis pas PDCI, mais j'étais RHDP, j'étais RDR.
D'accord.
J'ai été dans l'alliance RHDP. Et puis, actuellement, tout est un peu confus dans le pays, mais je suis quand même attachée à des individus, à des personnes. Mais la politique, elle est incompréhensible quand même.
D'accord. Donc, vous allez choisir...
Je ne le suis pas, mais je suis attachée à une personne, Yasmina Ouénien, je le dis depuis longtemps, je l'ai soutenue. Même quand j'étais au RDR, je leur avais dit que j'avais pour candidate Yasmina Ouénien, on ne change rien à cela.
Pourquoi,
mais
qu'est-ce qui
aujourd'hui,
vous...
je suis un peu confuse concernant Yasmina Ouénien, parce qu'elle est alliée à quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais pas où leur alliance va les mener. Alors voilà. Donc, je n'ai pas attendu que vous me posiez peut-être la question, donc je vous ai peut-être tout dit.
Oui,
je
voilà,
ne
parce que je.
L'alliance,
voilà, c'est ce que je voulais savoir. PDCI,
voilà,
FPI, Probagbo.
FPI, non, je n'y crois pas parce que, personnellement, et cela n'engage que moi et peut-être certaines personnes, je ne fais pas confiance au président Laurent Gbagbo parce que depuis que j'ai connu ce monsieur, il n'a jamais respecté vraiment sa parole qu'il donne. Et en plus de cela, il a été une souffrance pour moi, personnellement, dans ma famille, dans mon enfance, jusqu'à ce que je m'arrive à ce point-là. J'ai une image assez négative de lui. Donc, je ne suis pas vraiment disponible pour toute alliance avec le président Laurent Gbagbo. Le FPI, c'est Laurent Gbagbo. Donc, moi, c'est rien de bon, quoi, personnellement.
Hortense, donc, vous voulez voter pour une femme. Peu de femmes sont en lice pour ces législatives, alors qu'une loi adoptée en 2019 imposait aux partis politiques de présenter 30% de femmes aux législatives. On est très loin du compte. On est passé de 12,26% en 2016 à 14,62% pour ce scrutin. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais ça va être difficile parce que moi, personnellement, à ce moment précis où j'avais fondé tous mes espoirs sur Yasmina Ouénien, ben je ne sais plus où elle va et je ne sais plus qui voter. Et les femmes ne sont pas vraiment aidées et certaines ne comprennent pas bien ce qu'elles doivent faire. Je crois que le message n'est pas passé au niveau de la population. Et donc, les gens votent par rapport à des individus qu'ils connaissent. C'est tout. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et les femmes qui sont venues, elles suivent des hommes en qui on ne fait pas confiance. Ben alors donc, ça ne sert à rien. Mais le plus important, il faut voter pour ne pas rester comme ça. Celui qui a le courage de se présenter, qui se présente, qu'il vote pour ne pas que le pays aille dans le désordre. Bon, il vaut mieux des élus, même mal élus, mais c'est mieux que rien du tout, quoi. Voilà.
Et vous êtes optimiste, vous pensez que la réconciliation nationale est en marche, que le pays est sorti de ces crises politiques à répétition?
Ben, ça, je ne suis pas sûre, parce qu'on a tous quelque chose dans le cœur de façon très dure. Et rien n'a été vraiment fait pour améliorer les choses. D'un côté, il y a le RDR, le président de la République qui cède beaucoup au point de frustrer ses partisans à lui-même qui se sacrifient. Et de l'autre côté, il y a les autres qui ne lâchent pas et qui donnent toujours des coups. Et alors donc, moi personnellement, en tant que partisane du président de la République au pouvoir en ce moment, j'ai pris vraiment beaucoup de coups et je continue d'en prendre. Ben, je vous dis que le terrain politique, ça, j'ai lâché prise, hein, parce que ça sert à rien pour moi. Maintenant, je cherche à survivre. Mais comment survivre dans ces conditions? La pression est trop forte.
Merci
mais
beaucoup.
Mais j'ai pas lâché le président de la République. Je souhaite qu'il puisse réussir, mais bon.
Merci.
C'est difficile, quoi.
Merci beaucoup, Hortense, d'avoir participé à ce débat. Merci à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité qui m'a aidé à préparer cette émission. Audrey Taïeb, Yasmine Boulan, Elsa Olaizola, Jessica Taïeb, Édouard Maille, Susanna Consalves, Gwendal Lavina, sans oublier Arès Siradag à la réalisation et Benoît Vandenbroek au standard. Demain matin, c'est Juan Gomez que vous retrouverez à ce micro. Moi, je vous donnerai rendez-vous demain après-midi à 13h30 TU pour un devis voix spécial Serge Gainsbourg, 30 ans jour pour jour après sa disparition. Dans 10 minutes, c'est Priorité Santé. Caroline Paré, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous allez vous pencher aujourd'hui sur...